L'Iran qualifie le deal du siècle de trahison du siècle, non seulement contre le peuple palestinien, mais aussi contre l'Oumma islamique. L'armée syrienne et ses alliés ont continué de progresser dans le sud d'Idlib et dans l'ouest d'Alep après la libération de la ville clé de Marat al-Numan, située sur l'autoroute M5. Des milliers de pompiers, indignés par le manque de reconnaissance de leur profession, ont battu le pavé à Paris lors d'une manifestation nationale. Et une vaste attaque terroriste perpétrée samedi au Burkina Faso contre le village de Silgadji dans la province de Soum a tué 39 personnes. C'était les titres. En voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a qualifié le deal du siècle de trahison du siècle, non seulement contre le peuple palestinien, mais aussi contre l'Oumma islamique, avant d'appeler les États et les nations libres de la région et du monde à faire face à ce plan scandaleux. Le territoire palestinien appartient à son peuple. Le régime sioniste est un régime usurpateur et occupant, et la seule solution à la crise palestinienne est d'organiser un référendum sur le sort de la Palestine auprès de ceux et de celles qui y ont vécu depuis des générations avant que l'occupation sioniste n'arrive. Aucun autre plan ne sera viable et il est condamné, a indiqué le porte-parole de la diplomatie iranienne, pour lequel le nouveau cirque US ne pourra non plus effacer la cause palestinienne et la question de la noble route de l'ordre des priorités du monde de l'islam. C'est déplorable de voir certains pays islamiques oublier lâchement la Palestine, confondre amis et ennemis et fermer les yeux délibérément ou par négligence stratégique sur plus de 70 ans de crimes inhumains du régime sioniste à l'encontre du peuple palestinien, a-t-il ajouté en allusion à l'Arabie saoudite, à l'Égypte et à leurs satellites golfiennes qui ont rendu hommage au deal du siècle et partant à la liquidation de la première Ibla de l'Oumma islamique. Étant donné l'urgence et l'importance de la question palestinienne menacée par le grand complot que sous-tend le deal du siècle, la République islamique d'Iran est disposée à coopérer avec les pays de la région et ce sans tenir compte des divergences afin de contrer la grande conspiration qui menace l'Oumma islamique dans sa totalité, a-t-il fait remarquer. La résistance a aussi réagi au tout récent commentaire du président américain Donald Trump qu'il a prononcé lors d'une conférence de presse conjointe avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche. Dans la foulée, Sami Abou Zohri, porte-parole du Hamas, a qualifié d'hostile les propos de Trump sur son soi-disant plan de paix. De son côté, Mahfouz Munawar, un commandant du djihad islamique de la Palestine, a appelé les Palestiniens à recourir à une stratégie nationale pour neutraliser le deal du siècle. Concernant toute question qui concerne la nation palestinienne, les États-Unis ne pourront pas être une partie impartiale, a-t-il indiqué. De même, le ministère des Affaires étrangères de la Russie a déclaré que la position des Palestiniens et des pays arabes vis-à-vis du deal du siècle ou le soi-disant plan de paix des États-Unis était plus important que la position de Moscou, mais celui-ci allait pourtant examiner le dossier. La diplomatie russe a souligné qu'il ne revenait pas aux Américains de décider des solutions au Moyen-Orient. Lors d'une conférence de presse conjointe le mardi 28 janvier à la Maison-Blanche avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président américain Donald Trump a expliqué les détails de son soi-disant plan de paix connu sous le nom de « deal du siècle ». Donald Trump a prétendu que la publication du deal du siècle constituait un pas en avant dans le sens de la paix pour Israël et contre l'extrémisme. En allusion à sa visite dans la région, Trump a déclaré avoir été navré de découvrir les mauvaises conditions de vie des Palestiniens. Le président des États-Unis a ajouté qu'aucun plan proposé jusqu'ici pour résoudre le conflit israélo-arabe n'avait eu autant de détails que le deal du siècle. Par la suite, Trump a ajouté que la ville de Rots resterait la capitale indivisible du régime israélien. Au bout de 10 jours de provocations, les forces américaines dans le nord-ouest de la Syrie prennent la poudre d'escampette, dégageant l'autoroute stratégique M5 qu'elles croyaient pouvoir occuper en dressant des postes de contrôle de pacotille. La dure riposte de l'armée syrienne et de la Russie aux actions de l'armée américaine a contraint cette dernière à fermer d'urgence ses barrages routiers et à quitter l'autoroute internationale. C'est sur fond de ce méga-retrait US dans le nord-est syrien qui a semblé être une tentative pour stopper la marche en avant de l'armée syrienne à Idlib que Marat al-Numan, la porte d'entrée du centre d'Idlib, a été libérée. Des unités de l'armée syrienne et de ses alliés ont continué de progresser dans le sud d'Idlib et dans l'ouest d'Alep après la libération de la ville clé de Marat al-Numan, située sur l'autoroute M5. Ils sont que les terroristes de Hayat Tahrir al-Sham, branche syrienne d'Al-Qaïda, et leurs alliés soutenus par la Turquie soient dans le désarroi au milieu de grands revers qu'ils ont subis dans le grand Idlib. Selon des sources pro-gouvernementales, les troupes syriennes ont libéré une partie du quartier Rachidine 5, les fermes de Khan Tuman et plusieurs autres points du sud-ouest d'Alep. Dans le sud-est d'Idlib, des unités de l'armée syrienne dirigées par les forces du Tigre ont avancé à l'ouest et au sud-est de Marat al-Numan dans le but de nettoyer toute la campagne de la ville des terroristes. Selon des sources locales, le principal objectif actuel de l'armée est de dégager la partie de l'autoroute M5 entre Khan Cheikhoun et Marat al-Numan. La ville de Saraïb est également une cible hautement prioritaire, mais il est peu probable que l'armée avance vers elle alors que l'arrière de la ville dans le sud-est d'Idlib n'est pas encore sécurisée. Quittons la région et allons directement en France, où des milliers de pompiers indignés par le manque de reconnaissance de leur profession ont battu le pavé à Paris lors d'une manifestation nationale. Or, avec les forces de l'ordre, barrages, assaillis, des scènes jamais vues se sont produites lors de cette mobilisation. Le premier ministre français a regretté quelques violences dans le cortège parisien des pompiers venus protester contre la pénurie d'effectifs et exiger une revalorisation de leurs conditions de travail ainsi que l'augmentation et l'harmonisation de la prime de feu. Plusieurs milliers de professionnels en uniforme se sont rassemblés le 28 janvier dans les rues de la capitale pour se rendre depuis la place de la République à Nation. Des affrontements ont éclaté peu après que le cortège est parti. Dans un premier temps, le cortège, quadrillé par les forces de l'ordre, est arrivé dans le calme place de la Nation où une Marseillaise a été entonnée en chœur par les pompiers. Plusieurs manifestants ont ensuite tenté de forcer un barrage métallique de police érigé pour empêcher un éventuel blocage du périphérique, brièvement envahi par les pompiers. Les soldats du feu ont été repoussés par les forces de l'ordre au canon à eau et par des tirs de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes. Des manifestants ont été légèrement blessés, notamment aux jambes, par des éclats de grenades. La préfecture a de son côté annoncé l'arrestation de deux manifestants violents. Il s'agit de la deuxième manifestation nationale de pompiers en moins de 4 mois dans la capitale. À l'appel des syndicats de pompiers professionnels mobilisés depuis l'été dernier pour obtenir du gouvernement et des collectivités locales des réponses à leurs revendications. Les syndicats réclament une revalorisation de la prime de feu, 28% du salaire de base contre 19% actuellement, à hauteur des primes de risque accordées aux policiers et gendarmes, le maintien de leurs effectifs, la garantie du maintien de leur système de retraite actuel et une meilleure protection face aux agressions dont le nombre augmente chaque année. Les pompiers professionnels représentent 16% des 247 000 pompiers en France, les autres étant volontaires ou militaires. Et enfin, pour fermer le journal, une vaste attaque terroriste perpétrée samedi au Burkina Faso contre le village de Sil-Gadji dans la province du Soum a tué 39 personnes, a annoncé mardi le gouvernement confirmant l'information donnée plus tôt par une source sécuritaire. L'information avait été donnée plus tôt par une source sécuritaire sous couvert d'anonymat. Les habitants de Sil-Gadji ont fui leur commune et sont arrivés dimanche à Bourzanga, raconte un témoin. Selon les habitants qui sont arrivés, les attaques ont eu lieu depuis le samedi. Les terroristes ont encerclé les populations au marché du village avant de les séparer en deux groupes. Les hommes ont été exécutés et les femmes sommées de quitter le village, a déclaré à l'AFP cet habitant de Bourzanga. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques terroristes qui ont fait près de 800 morts et près de 600 000 déplacés ou réfugiés depuis 2015. Selon les chiffres de l'ONU, les attaques terroristes au Mali, au Niger et au Burkina Faso ont fait 4 000 morts en 2019. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. E11A abattu. Le coup du CGRI. C'est le titre du commentaire politique. Dans un récent article signé Michael Peck, The National Interest fait un parallèle entre le missile de croisière iranien Mobin, dévoilé lors du salon russe de l'aéronautique MAX 2019, et le Tomahawk américain. L'engin, d'une portée de 450 km et d'une vitesse de 900 km par heure, a une altitude maximale de 45 000 pieds. Il dispose d'une ogive pouvant atteindre les 120 kg et possède une section transversale radar faible et une capacité d'évasion radar élevée. C'est nettement supérieur par rapport au Tomahawk de l'US Navy qui, bien que guidé par GPS, n'ont une vitesse que de 800 km par heure. Ils sont de surcroît bien plus précis que les Tomahawk, ce qui laisse supposer que les Iraniens ont su réaliser une importante percée dans le système de guidage de missiles par satellite ou par inertie. Au fait, ce qui effraie et inquiète, c'est que le progrès iranien en matière d'armement est perpétuel. La grande surprise des attaques contre les installations pétrolières saoudiennes en septembre 2019 aura en effet été la précision. 17 des 19 missiles utilisés lors des frappes d'Aramco ont directement touché leur cible sur le territoire saoudien. Au lendemain de la frappe, les analystes l'ont qualifié de signal d'alarme et ils avaient raison car la frappe a prouvé la puissance d'un arsenal de missiles de haute précision entièrement amélioré que l'Iran a lentement développé et qu'il partage avec ses alliés. Note la publication avant d'ajouter. Ceci nous ramène à l'escalade militaire qu'a déclenché l'assassinat du général Soleimani à Bagdad avec l'Iran. Le Pentagone vient de revoir à la hausse le bilan des blessés de la frappe du 8 janvier de l'Iran contre la base d'Ayn al-Assad à Al-Anbar, qui est désormais de 50 personnes, et ce ne sont pas uniquement les capacités balistiques iraniennes qui ont été mobilisées. On sait que l'Iran a pris d'assaut le centre radar et de surveillance de la base par une série de cyberattaques qui ont carrément mis hors service les 7 drones ultra sophistiqués qui surveillaient le ciel irakien, ce qui a permis au CGRI de toucher droit au bout et de frapper chirurgicalement des cibles bien choisies à l'intérieur de la base. L'auteur revient ensuite sur la destruction de l'E-11A dans le ciel de Ghazni, en Afghanistan, le 27 janvier, crash que les talibans disent avoir provoqué à coups de missiles, mais que le Pentagone continue à renier. En effet, plus de 55 000 faux comptes appartenant à la prétorique communauté du renseignement US en Asie de l'Ouest et de l'Est ont été mobilisés ces 48 dernières heures pour minimiser la destruction en plein vol du bombardier Global Express E-11A américain dans le ciel de Ghazni en Afghanistan, un avion qui effectuait lors de son crash sa 10 millième mission. L'article indique: les talibans l'ont revendiqué, mais il est difficile de croire qu'une salve de SAM tirée un peu par hasard puisse intercepter puis provoquer le crash d'un mastodonte du ciel qui pilotait depuis la base de Kandahar, menait depuis des années des missions similaires. Alors, l'empreinte du CGRI dans tout ceci? Après tout, ce fut en 2011 que les Iraniens ont intercepté un RQ 170 US, dit Beto Kandahar, et depuis, ils n'ont cessé de nous étonner. En juin 2019, un Global Hawk de plusieurs millions de dollars a été intercepté dans le ciel iranien et abattu. Ce fut ensuite le tour d'Aramco, puis d'Ayn al-Assad et l'affaire de l'E-11A, qui possède tous les critères pour entrer dans cette lignée. Pire dans tout cela, c'est que la technologie utilisée par le BACD et d'autres embarqués à bord de cet appareil détruit pourraient faire très bientôt l'objet d'une rétro-ingénierie par l'Iran.